sais ce que c'est.
De quoi tu parles?
Ça commence bien.
Il va être plus détendu, voilà. Donc bonsoir à toutes et à tous. Pour avant de démarrer ce conseil, je vous propose donc, comme hier à la communauté des communes, qu'on fasse une minute de silence donc pour l'honneur de Monsieur Gérald Gervasoni, qui a été élu donc à la mairie du Vigan sur le mandat précédent et qui est décédé donc le 11 novembre. Donc je demande une minute de silence, s'il vous plaît. Donc on va passer à l'appel. Sylvie Pavlista.
Oui.
Jérôme Sauvetan.
Oui.
Elsa Lévin.
Oui.
Jules Chamou. Halima
oui.
Filali.
Oui.
Denis Sauveplan,
oui.
Jean-Baptiste Thibault,
oui.
Gérard Verceau.
Oui.
Alors Valérie Machecourt est absente, elle me donne procuration. Lionel Giron-Père, Chantal Pralon, Magali Fesquet, Emmanuel Puech, oui. Éric Poujade est absent et donne procuration à Denis Sauveplan, Lionel Coste,
oui.
Émilie Pascal,
oui.
Ulysse Boisson, Katia Julia est absente, elle donne procuration à Jules Chamou. Anna Mesba, absente, donne procuration à Elsa Lévin. Roucher Robin, absente, donne procuration à Sylvie Pavlista. Monique Laurent, absente, donne procuration à Magali Carterade. Alexandre Cosa. Maxime va arriver. Damien Wild, absent, donne procuration à Alexandre Cosa. Donc, toutes mes pensées. Voilà, les plus fiers et les plus, voilà, les plus... être courageux dans cette très dure épreuve qui... à la fin, Olivier Demko
oui.
et Magali Carterade.
Oui.
Je vous fais passer la feuille d'émargement et pour le signer. Donc, on va désigner un secrétaire de... Donc, la dernière fois, c'était, je crois, Maxime. Donc, Olivier Demko
oui.
Pas d'objection à ce que Olivier soit secrétaire de séance. Merci. Il faudra signer donc Alexandre. Il faudrait que tu signes et puis Maxime aussi devra signer. Il y a Maxime aussi qui devra signer. Je te laisse. Avant de faire signer, Nolwenn, je vais demander donc s'il y a des observations sur le dernier PV de la fois précédente, donc du conseil municipal, la date, le 6 octobre. Pas d'observation, donc voilà, je peux te donner, excuse-moi, merci. Bien, donc nous allons démarrer avec la première délibération sur le budget 2023, décision modificative numéro 2 sur le budget principal, Jules Chamou.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc je vais épargner à toutes celles et tous ceux qui étaient déjà là hier le rappel du contexte international et national sur l'inflation, etc. A priori, ça n'a pas bougé depuis hier. Donc c'est une décision modificative, enfin on va en faire trois, comme chaque année, en fin d'année, on fait une décision modificative du budget pour affiner les derniers crédits qui restent à ouvrir pour pouvoir clôturer l'année comme il se doit. Donc là on est sur une décision modificative de 2% du budget total de fonctionnement, donc je dis souvent que c'est la question de l'épaisseur du trait, elle est importante. Donc d'abord sur la partie fonctionnement. On observe qu'on a 150 000 euros de plus sur le 011. Peut-être si on arrive, Noël, pardon, à zoomer un petit peu. Voilà, ça sera plus...
Peut-être si tu peux avancer un peu le tableau, peut-être.
Merci beaucoup. Donc sur le 011, vous remarquez 154 000 euros supplémentaires. La moitié sont dues à l'augmentation très forte des coûts de l'énergie. Le kilowattheure est passé de 6 centimes à 38 centimes pour les collectivités de plus de 3 500 habitants. On est avec la communauté de communes la seule collectivité du territoire touchée, hein, puisque les autres communes peuvent encore bénéficier du tarif bleu, du tarif réglementé. Nous, on est obligé d'être sur un tarif de marché. Pour l'autre moitié, il y a un certain nombre de postes qui augmentent, hein, vous le remarquez. Un petit peu plus bas sur la maintenance, par exemple. Les frais de maintenance de logiciels ou de copieurs ont énormément augmenté cette année. On est à plus de 80 000 euros au total, donc là il faut en rajouter 35 000. Voilà, c'est beaucoup des frais logiciels, des frais de maintenance, de photocopieurs, des remplacements, des choses comme ça. Et ça, on a malheureusement que très peu la main dessus. Ce sont des contrats longue durée. Il y a des formations qui sont importantes également à réaliser. Et puis vous avez aussi beaucoup de changements. De manière générale, la trésorerie de Quissac, la trésorerie a basculé à Quissac, elle n'est plus au Vigan, et donc ils ont une nouvelle manière de prêter un certain nombre de postes. Et donc vous avez beaucoup d'endroits où il y a un moins et un plus en face, parce qu'on change les imputations. Donc je ne vous fais pas la liste, mais vous avez beaucoup. Là, par exemple, fêtes et cérémonies, une partie de ce qu'on mettait sur le chapitre fêtes et cérémonies doit maintenant être mis sur le chapitre réception. Donc bon, voilà, vous avez beaucoup d'échanges comme ça. Je vous enverrai toute la soirée, je le redirai simplement, mais ça arrive régulièrement. Donc ça, c'est sur le une forte augmentation des coûts d'énergie et aussi d'autres sur ce chapitre. Sur le chapitre 66, on a des intérêts supplémentaires liés à la ligne de trésorerie qu'on a souscrite avec des opérations d'ordre, 5%. Et puis en recette, donc marqué le principal en recette, donc là vous avez à nouveau un changement d'imputation, par exemple moins 130 000 de taxes additionnelles sur les droits de mutation, plus la compensation pour perte additionnelle aux droits de mutation. Bon, voilà, et avec le montant qu'on avait prévu au budget, 130 000, et le montant qu'on a réellement, qui est 119 950. Voilà, quoi d'autre vous indiquer. Également sur les dotations et participations, vous avez 123 000 euros de dotations supplémentaires de l'État, qui sont essentiellement la subvention de la Caisse des dépôts pour le campus connecté. Voilà, sur la partie fonctionnement. Sur l'investissement, on prendra les questions à la toute fin si ça vous va. Sur l'investissement, on a eu un changement des serveurs qui dataient d'il y a 10 ans sur les acquisitions mobilières. Vous avez donc maintenance informatique, autre immobilisation corporelle. Donc c'est essentiellement les serveurs informatiques qui étaient assez anciens. Et l'achat donc pour 45 000 euros de matériel informatique, entre autres, pour faire fonctionner le campus connecté, sachant que la région finance ça. En fait, c'était la fin de l'enveloppe de financement de la région pour le campus connecté. Plutôt que de la gaspiller, on a du matériel neuf. Et puis vous avez des travaux qu'on inscrit en totalité, puisque maintenant on a la totalité du marché qui a été publié en enseignement supérieur. Donc il manque 577 000 par rapport à ce qu'on a prévu. On ne va pas tout réaliser en 2023, on sait, on en basculera une partie sur 24. Mais on inscrit tout cette année, comme ça c'est.
Je souligne quand même la subvention pour le campus connecté, la subvention du département qui est conséquente et donc une belle aide qui nous. Pour le pôle d'enseignement supérieur, oui, pardon. C'est une belle aide et une opération en tout cas de.
La chance aussi de croiser la présidente du département, elle est vraiment très contente de ce projet.
Oui, moi je l'ai.
Et même elle souhaite savoir si c'est pour organiser une visite des travaux à un moment.
C'est prévu.
Voilà, c'est un projet. Et si elle est disponible, elle peut voir en travaux et puis évidemment pour l'inauguration.
Des questions sur cette délibération donc du budget, de la décision modificative. De questions particulières? Non? Alors on va passer au vote. Qui est contre? S'abstient? Merci. Deuxième délibération, budget 2023, décision modificative numéro 1 du budget de l'eau. Jules Chameau.
Le budget de l'eau, très peu de modifications, c'est 17 000 euros de plus en achat de matériel et 17 000 euros de moins en travaux qui seront décalés un petit peu sur 2024. C'est 3% du budget. Pas grand chose.
Des questions sur cette décision modificative, pardon? Question. Alors on va passer au vote. Qui est contre? Qui tient? Merci. Troisième délibération, budget 2023, décision modificative numéro 1, budget village de vacances. Monsieur Jules Chameau.
Voilà, donc c'est seulement 2% de. Il y avait une recette qu'on n'avait pas complètement reportée en 2022. Et qu'on reporte, enfin sur le premier budget 2023, pardon, et donc on vient pour le rajouter, les 5 000 euros additionnels affectés par la collectivité de rattachement, c'est la fin des rémunérations sur décembre aux agents. passer.
Ben, allons-y. On va vous passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 4, débat d'orientation budgétaire 2023 pour le budget principal, Jules Chamou.
Donc là, on va rapidement revoir toute l'année 2023, pas juste l'épaisseur du trait comme on dit, mais juste pour voir où on peut aller ensuite en 2024. À nouveau, là, le contexte international, national, bon, c'est une inflation très forte, on y reviendra quand c'est pertinent, mais il n'y a pas forcément de bain majeur à mentionner. On va regarder directement les recettes et puis les dépenses de fonctionnement. Donc, d'abord un mot sur l'endettement, Un mot sur l'endettement de la collectivité. Il est comparable au niveau qu'on avait en 2019, donc juste avant le début du mandat. Et donc là, à mi-mandat, on est à peu près au même niveau d'endettement, donc juste au-dessus sur le exact. On a 2,1 millions en 2019, à fin 2019. Et on est à 2,3 millions. Alors, on a écrit au 31 décembre, ça sera ça au 31 décembre, mais aujourd'hui on est le 30 novembre. Donc, c'est assez remarquable, je tiens à le souligner. Vous connaissez le cycle de vie des collectivités. Et à mi-mandat, c'est souvent là où on a levé toute la dette parce que là, on a les projets qui sont à un très bon rythme. On a eu le temps de débuter le mandat, de faire les études. On a vraiment lancé les projets. On le voit, on a terminé les boulevards, on a les projets du pôle d'enseignement supérieur, du City-Stade, enfin on va y revenir, tous ces projets qui sont vraiment en phase, donc ça coûte cher. Et donc d'avoir un endettement qui est peu élevé à mi-mandat, c'est un bon signe parce que souvent les collectivités mettent plus à mi-mandat et ensuite ça redescend sur la fin de mandat pour laisser l'opportunité au suivant de pouvoir investir également. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez important. Et en termes de capacité de désendettement, on va y revenir comme... On a une grosse inflation par contre, donc la dette, elle, ne bouge pas, mais nos recettes, enfin, notre résultat de fonctionnement, il est un peu moins bon parce qu'on a des coûts de l'électricité qui sont très élevés et on a forcément un ratio d'endettement qui augmente un petit peu, même si la dette elle-même... mais on est en dessous de 5 années de désendettement, on est encore très loin de la zone d'alerte, on est encore en très... On n'a pas eu le droit au filet de sécurité, on n'a pas mis en place un filet de sécurité pour... Ce n'est pas le cas pour nous, donc là pour la partie endettement. Sur nos recettes marquantes, on a la suppression de taxes d'habitation qui est là d'augmentation particulière. On n'a pas d'augmentation de taux non plus, donc c'est pas non plus d'augmentation de. Donc pas d'augmentation d'impôts. On a des bases fiscales qui se rapprochent de la moyenne de la strate. En fait, sur les taxes ou sur les impôts, sur les dotations qui sont comparables à ce qu'on avait en 2022. Et les dotations de l'État, à peu près du même ordre aussi, hein. On est à 2 millions en 2023. Là, pour la partie recettes, à peu près la même chose que l'année dernière. Pour la partie dépenses, en revanche, c'est pas du tout la même chose que l'année dernière, vous en doutez. Les dépenses de personnel, elles sont assez maîtrisées, elles augmentent quand même de 4% cette année, elles ont augmenté de 6% l'an dernier. Ça vient notamment du glissement vieillesse technicité. Vous savez, les agents qui progressent dans leur carrière, qui ont des promotions, des avancements de grade, et donc ils augmentent de 1, 2, 3, 4%. Et puis en plus, on avait l'augmentation du point d'indice au mois de juillet. Cette année, on l'a sur toute l'année, et il y en a eu une nouvelle au mois de juillet, donc forte augmentation. Et malgré ça, on maintient à 4,3% d'augmentation. Là, c'est un effort qui est fait par les agents sur les dépenses de fonctionnement. Sur les charges à caractère général, là par contre, ça explose, c'est l'énergie. Je vous le disais, on avait l'année dernière 180 000 euros de cette année, 430 000. Enfin, ça fait 100 000. Voilà. Et malgré ça, on n'a pas le droit au filet de sécurité, hein, donc c'est que ça va en trop bien. Je n'ose imaginer qu'est-ce qu'il y a pour avoir droit au filet de sécurité.
Kilowatt est passé de 0,6 à 0,38.
On va se servir des chambres.
Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que le prix de la cire a augmenté aussi. On y a pensé, figure-toi, mais même les bougies, c'est devenu trop cher.
Ça se négocie.
C'est des marchés qui sont négociés, avec le
En fait, sur le prix de l'énergie, il est fixé annuellement par RTE en négociation avec le gouvernement et EDF. Et c'est les grandes masses de combien on produit dans le pays, combien on consomme et combien chacun est prêt à payer pour la consommation. Avec la question de l'Ukraine, de la perte de production de gaz très forte en Allemagne, il y a eu moins de production d'électricité en Allemagne, notamment, mais donc les Allemands étaient prêts à acheter de l'électricité en France, donc ça fait monter les prix en France aussi. Ça est un peu aberrant, mais pour nous, ça nous concerne. On s'est allié avec toutes les collectivités qui le voulaient du département du Gard et de l'Hérault, avec les deux SMEG, un appel d'offres qui est porté par le SMEG de l'Hérault. Bonsoir Maxime. Et le SMEG du Gard, donc on a quand même une force de négociation qui est importante, et c'est le meilleur prix qu'on arrive à obtenir parce qu'au-dessus de 3500 habitants, on est obligé d'être sur les tarifs de marché. Alors qu'en dessous, on est sur les tarifs régulés, donc on est un peu protégé par ça. Donc, négocier, bon, les deux SMEG, Gare et Hérault, ont fait de leur mieux pour négocier cet appel d'offres, mais ils n'ont pas réussi à avoir des prix moins chers. Encore, c'est pas le plus cher qu'on peut observer, hein. Il y a des collectivités qui ont des à 60 centimes ou 70 centimes du kilowattheure, on n'est que à 38 finalement. Et ce qui est déjà beaucoup, mais... Il y a des endroits, c'est bien pire. Et par contre, ce qui est intéressant dans cet appel d'offres avec le SMEG, c'est que la négociation des tarifs, elle est tous les ans. Il y a des collectivités qui signent des contrats pluriannuels sur 3 ou sur 5 ans. Et donc, il y en a qui, l'an dernier, ont été obligés de signer un contrat à 60 ou 70, ou même 30, sur 5 ans. Donc là, ça va redescendre l'an prochain. Ça ira mieux. C'est intéressant d'être allié avec le SMEG pour ça, parce qu'on ne peut pas tant négocier le tarif. Par contre, pour la fréquence, ça, on peut. Donc, tarif, non, on ne peut pas le négocier. Voilà. Ensuite, sur les subventions aux associations pour 2023, elles ont augmenté parce que, pareil, les associations, elles faisaient face aussi à des augmentations de frais. C'est vrai que là, on arrive vraiment à la limite de l'exercice, on va dire. C'est vraiment compliqué sur la ville. Donc, en 2024, il faudra vraiment limiter cette augmentation, même voir revenir à un niveau antérieur, parce que ça n'est pas tout à fait durable.
Voilà. Donc, un les... gros poste, effectivement, qui pèse sur bon. Les collectivités. Oui.
Là, les dépenses,
c'est ça, des subventions.
Associations et autres organismes, oui. Mm-hmm. Il faudra essayer de diminuer sur les subventions. Donc, on est en train d'étudier aussi en commission, finance. Hein.
Oui.
Mais tous les postes qu'on peut ou on peut diminuer, quand même maintenir, on va dire, une aide aux associations, parce que les associations ont une importance quand même importante pour la ville, hein, mais malgré tout, il faut que tout le monde puisse y faire aux efforts. Oui, il y a beaucoup de dépenses. Ah oui, puisque la date limite, c'était le...
Oui, on les étudiera à la prochaine commission des finances.
Puisque, oui, ce sera voté au mois de décembre,
oui, voilà.
Lors du budget, en fait. Hein, c'est voté pendant pour le vote du budget.
Oui, là, comme orientation
ça,
générale...
Ça, c'est le DOB. Hein.
Oui, ce qu'on dit là, comme orientation générale, c'est que 23, vraiment, les augmentations des coûts de l'énergie est très importante. Donc, en 24, il va falloir serrer toutes les dépenses. Donc, évidemment, les dépenses... de fonds de la collectivité, mais aussi des subventions qu'elle verse. On va regarder tous les chapitres sans en exclure aucun. Quoi. Et donc on regardera à la prochaine commission des finances et puis au prochain budget qu'on votera dans 3 semaines, chaque poste pour voir ce qu'on peut baisser sur chacun des postes. Et ça sera la prévision sur 24 et ensuite on essaiera toute l'année d'ajuster au mieux. Tout le monde fera des efforts, nous les premiers, les agents, le fonctionnement de la mairie, mais on en demandera aussi sans doute aux associations de la période de vache maigre pour tout le monde.
L'énergie, l'électricité, c'est...
Le gaz,
il y a tout
le gaz, l'électricité.
Dans l'électricité, tu as...
Parce que du coup, on ne peut pas envisager d'éteindre les lumières à
cette période. On y songe, mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que l'éclairage...
Vous pouvez l'éteindre.
Il n'y a pas que l'éclairage public, en fait. Il y a tout ce qui est bâtiment public. Donc tout l'éclairage des bâtiments publics et toutes...
Il y a d'autres communes qui l'ont fait...
On s'y penche, on
non, mais
est
c'est, dessus. C'est, et puis en plus, là, la population. Voilà.
Tout à fait.
Sauf que quand on va dans les quartiers, pour les fameuses quartiers,
ils veulent tous la lumière.
Il y en a qui râlent quand
même. J'allais y venir,
alors,
c'était quand même l'allemand, le week-end, il y avait.
Il y avait le.
Il y avait une association qui faisait...
C'est pas l'association, c'est National, la Nuit des Étoiles.
Ah oui,
le jour de la nuit.
Je veux dire qu'ils avaient peur de se casser une jambe en marchant.
Alors,
c'était vraiment la nuit noire. Je sais pas, peut-être qu'il y a
des
pas à respecter. Une heure ou deux heures du matin, vous allez
réfléchir à l'éteindre,
je sais pas. Vous jouez sur la variation.
Alors, c'est ce qu'on s'est posé comme question. On s'est dit qu'entre minuit et 5 heures du matin, on peut éteindre dans certains quartiers l'éclairage public, dans certaines rues. Voilà, donc on ne va pas faire... les agents de la mairie, les électriciens de la mairie sont en train de commander des boîtiers pour justement pouvoir permettre cette possibilité. Voilà. On s'en rend même pas compte, mais on l'a déjà sur l'éclairage public qu'on a changé,
qui est récent.
Voilà.
Mmh.
Qui est récent. Alors c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Pas compte, mais ça baisse d'intensité.
De 70%.
Oui, c'est ça.
Ça se voit aussi budgétairement, moi je regarde les chiffres.
Oui.
En 2022, on a baissé 10% de la consommation d'éclairage de la ville avec les programmes de rénovation des ampoules qu'on fait point par point, subventionnés par le SMEG, par l'Europe, on les remercie. Et en 2023, ça a encore baissé par rapport au moins 10%, de encore moins 14%. Donc on voit une vraie diminution de la consommation, mais quand vous baissez de 14%, et c'est un gros effort, mais qu'en face le tarif il fait x6, voilà. Donc cette année, enfin, en 2024, dans ce DOB, on prévoit encore beaucoup de travaux là-dessus, même plus que l'année précédente, 180 000 euros de travaux de changement d'éclairage public, c'est une très grosse tranche d'éclairage public. Mais bon, en fait, on n'arrive pas à aller assez vite, malgré toutes les subventions, etc., par rapport à l'inflation. Il y a une vraie question. Il va falloir aller plus vite. Donc peut-être c'est, comme dit Lionel, éteindre certains horaires ou certaines rues ou des choses comme ça. On voit qu'on ne va pas assez vite par rapport à l'inflation. Donc il faut la rattraper, il faut trouver la manière de faire.
C'est le même problème pour les ménages aussi. Ouais. Les petites...
C'est quand même... tarifaire. Donc c'est pas une question qu'on se pose, c'est qu'on va le faire, mais bon, c'est en cours, voilà. Ouais. Mais il faut attendre ces fameux boîtiers pour certains.
En tout cas,
et par contre, voilà, les travaux de la tranche 3, donc de rénovation donc de l'éclairage public, ont démarré, hein. Je crois qu'ils ont démarré, d'ici la fin de l'année, ça devrait finir.
C'est en cours, là.
Oui, c'est en cours. Voilà.
À chaque fois qu'on a fait une réunion, tout le monde était d'accord pour que ça soit arrêté. Et après, on optimise.
On a posé la question et même on a reçu en mairie des courriers nous disant mais bien, nous aimerions que l'éclairage public soit éteint de telle heure à telle heure.
Tout le monde est
pas s'éclairer à la bougie.
Oui.
Ben nous, la déviation, il y a certains quartiers qui sont déjà éteints entre minuit et 5 heures. Hein. Ouais. Les arènes, Avez, Avez, c'est pas nous, mais...
Tout le monde essaie.
Tout le monde fait des efforts sur ce poste-là. Mais malgré tout, ça pèse pas mal.
Donc voilà pour la section de fonctionnement de 2023. Je vais passer à l'investissement. Donc sur l'investissement en 2023, il était très important. On a fait 2,2 millions d'investissements. Les gros travaux, c'est la fin des travaux du boulevard Jean Jaurès cette année. C'est le début des travaux du pôle d'enseignement supérieur. Et ensuite, et aussi des travaux sur les bâtiments communaux. Et ensuite, essentiellement, c'est des études, par exemple l'étude sur les aménagements des bords de l'Arve. Et il y a également 70 000 euros de voirie qui ont un 3.
Alors, je précise que sur la voirie, je n'ai pas payé l'avenue de Rochebelle. Hein.
Oui.
Ça ne fait pas partie.
Oui, ça fait enfin, que entre guillemets 70 000. Habituellement, par an, on fait entre 120 000 euros de travaux. Et dans le trou qui reste, en fait, il y a Rochebelle qu'on n'a pas encore payé. Les deux civils ont convoqué l'entreprise, sont allés sur place, ont dit en l'état, on ne paye pas. Il faut revoir la copie, donc ils vont revoir la copie parce que
ils vont refaire cette avenue au printemps,
au printemps, au mois de mars. Ouais.
Et donc on verra mars. En 2024. Mais du coup, sur 2023, il y a moins de travaux de voirie parce qu'on n'a pas encore décaissé, donc il n'y a que 62 000 entre guillemets. Et donc pour 2024, on en prévoit beaucoup des travaux également. C'est une grosse année, hein, de la fin du bar Jean Jaurès. l'essentiel des travaux du pôle d'enseignement supérieur, 1,7 million, ça c'est un très gros chantier qui est très bien financé, j'y reviendrai tout à l'heure. On commencera le 1 petite ville de demain et l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, donc pour 50 000 euros. Et puis je vous disais, donc l'éclairage public 180 000, et puis on continue les études à 50 000 euros. Et en 2024, on fera aussi le Boom Track et le City Stade, qui sont des aménagements sportifs à l'entrée du bon côté Abbesse, donc à proximité du terrain de boules, et puis un peu plus loin au niveau de la rivière, un peu plus, on n'est pas non plus sur la rivière.
Oui, si, si. On le réhabilite totalement, et c'est le Boom Track qui sera sur un autre terrain.
Moitié-moitié en gros, un peu moins, un peu plus. Mais...
Et une délibération plus loin, on en parlera plus précisément.
Voilà, donc on le voit un peu en dessous, l'investissement de la commune est légèrement supérieur aux investissements de la strat, donc on investit un peu plus que la moyenne. On est quand même dans le rythme, hein, on n'est pas non plus dans des dépenses somptuaires ou dans des. Voilà, on ne fait pas des folies, on est à 320 euros par habitant en moyenne, et la moyenne de la strate c'est 310, donc on est un peu au-dessus, 328 exactement, et 309, donc on est un peu au-dessus de la moyenne, mais on n'est pas non plus
à droite. Si, c'est tout à droite.
En fait, on a fait la moyenne sur les différentes années, parce qu'en 2022 et en 2023, on n'a pas encore la moyenne de la strate, le trésor public, le communal, avec plusieurs années de retard en fait, parce qu'il faut qu'il fasse la remontée au niveau national, la loi de règlement, c'est très très long. Tant que les services fiscaux soient au bon niveau, donc à la fin de cette année. Moyenne sur les 10 dernières années, on est dans le rythme.
Là, il n'y a pas de surinvestissement, ouais. Pas de sous-investissement non plus, on reste dans la strate.
On fait un peu plus que la moyenne. Quoi, ouais.
Légèrement.
Voilà pour les dépenses. Pour les recettes d'investissement, cette année, on a souscrit un emprunt court terme de 500 000 euros pour faire le boulevard des Châtaigniers, parce qu'on a beaucoup de pensions qui sont dehors, en retard. On attend encore 524 000 euros pour le Jean Jaurès, 194 000 euros pour le boulevard des Châtaigniers, 42 000 euros pour les travaux du plan d'Auvergne, qui ont été finis il y a donc voilà, on a 700 et quelques 1000 euros de subventions qui sont dehors. Donc un emprunt à court terme pour pouvoir quand même payer les entreprises, parce que là, elles ne peuvent pas attendre aussi longtemps. Et puis on sonne très fort à la porte des lanceurs. Ensuite, en 2023, également un emprunt de 700 000 euros. Ça, c'est pas un emprunt, on va dire, de trésorerie. C'est un vrai emprunt pour financer un investissement. Ça, c'est pour les travaux qu'on fait sur nos bâtiments, notamment le pôle, etc. Donc voilà, on a 2,8 millions, quasiment 1 million. On a déjà fait 2 millions cette année. On fait que 700 000 euros. Et en 2024, en fonction de comment le chantier avance et combien les subventions rentrent ou pas, parce que voilà, on a des très belles subventions de l'État, de la région, du département, mais c'est un chantier à 2 millions. Donc s'il avance très vite et que les subventions sont très lentes, on devra aussi sans doute faire un emprunt de trésorerie, mais ce n'est pas certain. Là, on fait 500 000 euros d'emprunt de trésorerie pour, sur 2 ans, 5 millions d'investissements. Donc, pour l'instant, pas mal. En 2024, on en rajoutera peut-être un petit peu, mais pas non plus après l'emprunt, on fait vraiment au plus juste à la fin d'année le montant qu'on a vraiment besoin pour pouvoir payer les entreprises en fait.
Il y a eu l'explication hier,
comme tu as posé la question, donc je refais l'explication pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier. La communauté de communes, elle est dans une situation financière dramatique, et donc les services de l'État, la trésorerie, la direction départementale des finances publiques, dès qu'elle reçoit un ordre de subvention de la préfecture la communauté de communes, en fait à toutes les collectivités qui sont dans le réseau d'alerte, c'est-à-dire où il y a tous les voyants qui clignotent au rouge, elle verse très rapidement. Aux autres collectivités, elle attend qu'il y ait la trésorerie aussi au niveau de l'État. C'est le projet de loi de finances qui est voté par les députés tous les ans, etc. Et donc quand elle a la trésorerie, elle le sort. Mais pour celles qui sont en situation très difficile, elle verse tout de suite. Donc à la communauté de communes, l'État n'a pratiquement pas de retard. Et ensuite, côté investissement, nous on fait en 2 ans 5 millions d'investissements, donc c'est quand même assez énorme. On sollicite donc les financeurs, la région, le département, sans parler de l'État, très fortement. Donc eux aussi ils ont des problèmes de trésorerie, ils les gèrent comme ils peuvent. À la communauté de communes, on ne fait pratiquement pas d'investissement. 5 000 euros dans l'année et encore.
En 2023, 120 000 euros.
Donc en fait, on ne leur demande pas beaucoup. Donc on leur demande 10 000, ils savent qu'on est un peu en dèche. Bon, ils versent. Là, on leur demande 600 000 euros. Enfin voilà quoi. Et en plus, donc ils savent ça, et en plus, les subventions qu'on demande côté communauté de communes, sur du personnel. Des contrats, par exemple les contrats du PETR ou des choses comme ça, c'est des agents qui travaillent. Ou c'est par exemple Petite Ville de Demain, côté État, le salaire de Mayanne est payé aux 3/4 par l'État, ils ne peuvent pas attendre 2 ans pour le verser, elle a besoin de son salaire tous les mois, donc ça c'est du personnel, ils le versent tout de suite en fonctionnement. Donc voilà, il y a très peu d'investissement à la Comcom, on est marqué comme étant vraiment dans une situation difficile, donc on a les subventions très rapidement. À la mairie, ils savent que la situation va mieux, que c'est en plus pour faire des gros projets d'investissement, donc ils se permettent d'attendre un peu. Et là, le faire 10% d'emprunt sur des projets de cette taille-là, la moyenne en France, c'est plutôt un tiers. Nous, on fait un tiers du tiers. Donc, pas trop mal.
On est d'accord.
On partage.
Ça met tout le monde en difficulté.
Et oui.
C'est dommage.
On partage.
Et ça donne aussi un surcroît de travail aux agents qui sont sans rien en train de réclamer.
Il y a une subvention de 42 000 euros qu'on attend depuis 2019, c'est ça ? Arrêtée de 2017, et cette subvention elle est partie au Vigan dans le Lot, et depuis c'est une nébuleuse totale et on n'arrive pas à se la faire. Et Nolwenn s'arrache les cheveux pour, on va dire, allez, pas quotidiennement, mais
au moins toutes les
presque.
Semaines. Au moins toutes les semaines.
Voilà. C'est pas normal, mais voilà. C'est
comme ça.
Il n'y a pas que nous, il y a un dossier.
Donc voilà pour la partie investissement. Donc en résumé, en 2024, à la mairie, on va continuer à bon rythme sur l'investissement et donc il va continuer à falloir faire très attention au fonctionnement parce que coût de l'énergie, parce que voilà, pour garder ce rythme rapide d'investissement qui est très important pour la commune, hein, il faut continuer à développer la commune, des nouveaux projets, ben, il faut bien gérer le fonctionnement, sinon en résumé.
Voilà. Est ouvert.
La raison principale de ça, c'est que l'État, enfin le gouvernement a décidé la suppression de la taxe d'habitation et l'a transformée en part de taxe foncière bâtie. Et donc on avait 1,2 million et 700 000 d'un côté et on a 2,1 millions de l'autre. Donc c'est quasiment à l'euro près, modulo l'inflation, la compensation en fait de la suppression de la taxe d'habitation. C'est ce qu'on a entendu au Congrès des maires cette année, ce qu'on vous donne d'une main, on le reprend de l'autre. En fait, il a pas du tout supprimé la taxe d'habitation. Enfin, il a juste fait peser davantage sur les propriétaires que sur tout le monde un impôt local. Et par contre, nous, on a un levier de moins. On peut moins bien gérer... Il y a du coup zéro sur la taxe d'habitation.
Et oui.
Mais oui, ça fait beaucoup. Oui, c'est ça.
Et oui.
Il y avait une partie du taux qui était au département. Ils ont donné au département une partie de TVA à la place. Et nous, on a toute la taxe foncière, dont la partie qui allait au département avant. Mais c'est la même somme à la fin qui est prélevée sur la feuille impôt. Simplement, nous, par contre, ça nous a ôté une partie de notre pouvoir local de décision. On ne peut plus décider sur deux taxes différentes. On n'a plus qu'un seul levier. S'ils enlèvent encore quelque chose, on devient des services de l'État, en fait. On n'est même plus une collectivité. D'autres questions ?
Oui, d'autres questions ? Pas la fiscalité communale. Attention. Ce sont les bases fiscales, voilà. Et elles ont sacrément augmenté. C'est pas 7,5% ou...
Non, ça c'était en 22. En 23,
en 23, on ne sait pas, mais en tout cas, en 22, c'était 7,5.
Oui. Oui.
Mais ça va, oui, de nouveau.
En fait, ça c'est à nouveau l'État. Alors, on a fait le calcul tout à l'heure. Notre dotation de fonctionnement, elle augmente beaucoup moins vite que l'inflation. De 2022 à 2023, l'inflation elle est de 4,9%, quasiment 5%. Et notre dotation elle augmente de 1,6%. Donc, en fait, l'État choisit face à l'inflation, au lieu d'augmenter nos dotations, il choisit d'augmenter les bases fiscales. Comme ça, ça se voit moins, entre guillemets, que c'est lui qui augmente. On a l'impression que c'est les collectivités qui augmentent parce que les impôts locaux augmentent, plutôt que d'augmenter les dotations à due concurrence de l'inflation, qui est la demande de tous les élus de France et de Navarre. C'est-à-dire, quand on a une augmentation de l'inflation, il faut que les dotations de l'État, puisque maintenant on est tous sous perfusion de dotations, ils enlèvent toutes les taxes, que ces dotations-là, elles augmentent au même rythme que l'inflation. Là, elles augmentent trois fois moins vite. Donc, si elle était compensée au même niveau, on pourrait dire de limiter le mécanisme sur les bases. Là, bon, la quadrature du cercle, je ne sais pas faire, quoi. Moi, j'y serais ouvert à dire on diminue à la concurrence pour avoir le même rythme que l'inflation, mais là, c'est même pas possible. Enfin...
Alors, ce soir, il suffit d'acter que le débat d'orientation budgétaire sur le budget principal a eu lieu. Qui s'abstient ? Merci. Débat d'orientation, délibération numéro 5, débat d'orientation budgétaire 2024 sur le budget de l'eau. Jules.
Donc là, sur le budget de l'eau, je vais un petit peu plus rapidement. Il y a deux points qui sont... principaux, mais si vous avez des questions précises, en 2023 c'est une année assez comparable à 2022, je ne vais pas faire ligne à ligne comme le précédent. Le principal qu'on voit, c'est que donc, les investissements sont toujours importants et en fait il faudrait même aller plus vite hein, pour que nos réseaux soient à suffisamment bon rythme. Il y a deux questions qui vont se poser à nous en 2024 sur l'eau. Déjà, on va se rapprocher de plus en plus de l'échéance de 2026 où on va transférer la compétence à la communauté de communes. Il y a une question d'harmonisation des tarifs sur le territoire puisque ça sera plus qu'un seul tarif en 2026. Donc il y a cette question-là d'harmonisation qui va nous être imposée en 2026. Donc est-ce qu'on se la pose un peu avant et on y va progressivement ou est-ce que ça fait le coup près en 2026 ? C'est une première question. Et puis une deuxième question, c'est ce transfert au-delà de la question faite. Va poser la question de comment on organise tout ça. Est-ce qu'on le délègue au privé parce qu'on est incapable de le gérer ou est-ce qu'on se dote des moyens pour le gérer ? Et donc il y aura la question de financer un nouveau poste en 2024 sur le budget de l'eau. On se propose, on reviendra sans doute dans le débat, d'embaucher un ingénieur ou une ingénieure dans le domaine de l'eau pour qu'il commence à faire le nouveau schéma directeur de l'eau, des investissements qu'il y a à faire, qui prévoit la question du transfert, qu'on regarde l'état des réseaux, des réservoirs d'eau, etc., etc. Enfin, on a besoin d'ingénierie de manière structurante. Et puis dans le transfert, ça sera utile aussi à l'avenir pour la communauté de communes, voir cette partie d'ingénierie. Il va falloir se poser la question de l'augmentation des tarifs de l'eau pour pouvoir financer ce poste d'un ingénieur et puis pour avoir un rythme et puis pour avoir un tarif qui est plus proche du tarif moyen du territoire, on va dire, parce qu'on est vraiment très très en dessous du tarif moyen. Voilà. Je ne vous assomme pas de chiffres sur ça, on aura l'occasion d'avoir un débat sur ce sujet plus large, on peut déjà en parler, mais sur 2024, c'est la prévision qu'on fait sur...
Si, sachant que depuis 2017, donc le tarif de l'eau, et à l'époque, en 2017, on avait augmenté ce tarif, on l'avait mis à 1 euro pour pouvoir obtenir des subventions de l'État, de l'Agence de l'eau. Oui. En dessous d'un euro, on ne pouvait pas avoir de subvention. Hein. Et là, ils sont en train de réfléchir aussi à d'exiger une nouvelle augmentation en fait, de la part des communes pour qu'on puisse bénéficier de subventions à l'Agence de l'eau. Voilà, d'une façon, il va être obligé de passer. Si on veut pouvoir avoir des subventions qui vont permettre, sans subvention, on ne peut pas entretenir le réseau, on ne peut pas entretenir les réserves. Bon fonctionnement, en tout cas, de ce...
Se faire attraper par la voiture, mais... Je terminer sur la présentation.
Pour la première fois depuis 2018, l'excédent de le fonctionnement, alors que d'habitude...
À ça, dites-le.
Avec
Oui, par exemple, la moyenne, j'ai retrouvé cette histoire de décalage, la moyenne entre 2018 et 2022, si on fait la moyenne des recettes, c'est 860 000 euros. Oui. Il n'y a jamais une année qui a 860, enfin quasiment jamais. En 2018, on est au-dessus, en 2019, on est au-dessus, en 2020, on est en dessous, en 2021, on est en dessous, en 2022, on est au-dessus, donc c'est en dessous. On a toujours une année un peu en dessous ou un peu en dessous de ces factures-là, mais à la fin, ça fait une moyenne qui est exactement au même niveau que les dépenses, 863 en moyenne, et là cette année on est à 858 en dépenses. Donc 858 en dépenses, 863 en recettes, en moyenne c'est pareil sur les dernières années.
On aura les bons chiffres pour le moment.
Ça dépend.
Il y a des décalages qui se posent sur quelques niveaux, mais il y a.
Et en moyenne sur les 5 dernières années, on a en dépenses 807 000 et en recettes 863 000. Donc ça reste un budget qui est en positif en moyenne sur 5 ans. Voilà, c'est juste en dessous, une année en dessus.
Ça, l'année dernière, je l'ai laissé en fonctionnement parce que je savais qu'il pourrait sans doute se décaler.
Ah non, tu disais.
Non, c'était déjà le cas.
En 18, en 19.
En 18, c'était
bien. Il est inscrit dans le BP 2023.
Oui.
Vous avez voté lors de l'adoption
du CIA. Ça se rééquilibrera.
La 2022.
En moyenne, on peut faire un transfert chaque année de 60 000 en gros. En fait, en moyenne, on a 60 000 d'excédents chaque année, donc on prévoit qu'à peu près, on peut dégager 60 000. Si une année, on a 150 000, on se dit. Bon, ben, on va garder 100 000 au chaud parce que l'année prochaine, en fait, on n'aura pas les factures et on peut quand même mettre 60 000 sur l'investissement.
Et ben, c'est un peu un décalage.
Parce que là, c'est Nicolas. Mais,
voilà, c'est Nicolas. Là, c'est Nicolas. C'est un décalage du même ordre.
C'est un peu la même.
Maxime et Alexandre, qu'est-ce que. Dites-nous. Vous avez du mal à comprendre.
En 2026, il n'y aura plus de problème.
Ça, c'est
voilà.
C'est
voilà. Non, mais avec le transfert de la compétence,
ouais. On fait la moyenne sur 5 ans, on s'y retrouve.
Mais je suis un peu inquiet quand même sur le transfert parce que rapidement, et j'ai senti que voilà, il y avait certaines mères qui étaient risquées. Celui là en tout cas. Et je vois arriver ce transfert là
pour une
série qui m'inquiète un peu aussi. Parce qu'on y arrive, hein, c'est
une part.
Justement, on se prépare.
Mais d'abord, tu vas me dire l'entente et tout, il n'y a pas de l'entente, elle soit migano-piganaise.
Elle n'est pas migano.
Elle
n'est
pas. Il
faut vraiment intéresser tous les acteurs.
Tout à l'heure, Sylvie, elle fera les remerciements. Dernier, il y avait une fuite à Molière et ils étaient à Molière.
Tous les agents.
Et après que ça abaisse, ça abaisse. Bon. Ça a démarré d'une. Ça a démarré d'une proposition d'Avez. Et voilà, l'idée, l'anticipation, on l'a vu en conseil communautaire aussi, avec l'agence départementale d'études sur le transfert des compétences pour toutes les communes, être pris au dépourvu. Donc, je pense que la grosse difficulté, ce sera sur les petites communes, et, ben, c'est de dire, nous, on aura un support ingénieur de la capacité.
Transfert
obligatoire. Et que ce soit
un transfert obligatoire.
Ce qui le problème. L'agence de l'eau.
Il y en a, c'est leur pas de l'aide.
Oui, mais c'est ça. Soyons clairs, l'agence de l'eau, si en 2017, elle a dit qu'il faut passer 1 euro, faut passer 1 euro, et que là, elle va dire qu'il faut passer 1 euro 50, ou je ne sais pas ce qu'ils vont dire, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, s'il y a des communes qui peuvent se permettre, et c'est le cas pour beaucoup, s'il y a des communes qui peuvent se permettre d'avoir un tarif de l'eau qui n'est pas cher, il est payé par le budget général. Si on fait comme pour les déchets à la communauté de communes, on passe sur les budgets annexes. Les services de l'eau, il y a énormément de communes qui sont en déficit. C'est d'arriver au fur et à mesure d'avoir un budget de l'eau pour chaque commune qui soit équilibre pour pouvoir passer au transfert des compétences. Il y a des communes qui vont être en grosse difficulté.
Il y a des, et il y a des communes qui ont déjà fait le transfert. La communauté commune Conseil-Gouane. Terre solidaire, ils ont fait le transfert déjà. Ils ont anticipé, ils ont déjà fait le transfert.
Et à l'inverse, il y a certaines communes que le transfert crispe, c'est normal, elles sont extrêmement bénéficiaires sur leur budget de l'eau, puisqu'elles, elles ont des tarifs plutôt par rapport à la moyenne du territoire, et qu'elles investissent largement, et donc c'est en fait leur bas de laine. Donc ça, je comprends que ça les crispe. Donc il y en a qui sont crispés, je comprends.
C'est normal. Et voilà, c'est une compétence, un transfert de compétences obligatoire, et on ne pourra pas y échapper.
J'ai entendu.
Mais oui, bien sûr.
Fermement opposé. Alors,
on n'a pas son idée.
Il n'y aura pas le choix.
Il n'y aura pas le choix.
S'il veut reculer pour mieux sauter jusqu'en 26, et ben il reculera pour mieux sauter jusqu'en 26. Ça lui appartient, il est maire de sa commune.
Oui, après, on comprend après,
on va pas attendre que tout le monde soit d'accord philosophiquement pour commencer à travailler.
Voyez, voilà, on travaille.
Moi, je suis d'accord, vous avez insisté, parce qu'il ne faut pas leur livrer un projet clé en main.
Ah non, mais c'est pas ce qu'on fait.
C'est
pas du tout ce qu'on fait.
Non, mais
en fait, c'est bien de le dire, c'est en communauté des communes, parce que nous, en fait, ça fonctionne bien. On a commencé une entente avec 3 communes, ça a bien démarré. Là, on espère se doter d'ingénierie. Et ça, ce discours-là, il faut effectivement que chacun se sente concerné et les bousculer un petit peu pour qu'ils y réfléchissent. Parce que nous, là, nous, on est tous d'accord.
Je suis mal placé pour parler à la place des autres communes.
Là, tu fais bien.
Moi, je suis d'accord sur l'attente, il n'y a pas de problème.
Oui, mais là, tu prêches avec des convaincus, on est d'accord.
Et l'attente, c'est vous qui la mettons en place.
Avec Avez et Molière.
Je ne voudrais pas qu'on nous le reproche. Qu'on nous dise, ça, vous nous imposez ça.
Mais au contraire.
On n'impose rien du tout. Là, on essuie les pots cassés. Pour l'instant, tout le monde garde son fonctionnement administratif, on va dire, juridique indépendant, les 3 communes. On n'impose rien à personne, on essuie les pots cassés. Et grosso modo, dans 6 mois, 1 an, s'il y en a qui veulent se joindre à nous, ils viennent se joindre.
Ils le savent, ça a été dit.
Tu as raison sur la modalité d'association, elle se traduira même financièrement. Pour l'instant, on prévoit 100%, on est en début d'année, on n'est pas encore en 24. On a prévu le salaire d'un ingénieur ou d'une ingénieure sur 2024 à 100% sur le budget de l'autre de la commune, parce qu'on se dit qu'il y a déjà beaucoup de boulot sur notre schéma, etc. Mais on envisage quand même de créer, de mettre à disposition cet agent de la communauté de communes, et donc qu'elle nous paye une partie de son salaire pour la partie des heures de son travail qu'il va faire à regarder la question du transfert. Quand il travaillera sur le schéma des châteaux d'eau et des réseaux du Vigan, il sera payé par le Vigan. Et quand il fera une partie de son temps de travail à la communauté de communes pour anticiper le transfert, il sera payé par la communauté de communes. Et à ce moment-là, peut-être que son credo, ça sera d'aller voir les maires de toutes les communes qui ne sont pas encore dans l'entente pour voir comment travailler avec eux. Ça peut faire partie de ses fonctions du quotidien aussi, ça je ne sais pas, c'est l'organisation des services qui le dira, mais politiquement, oui, on a intérêt à travailler avec tout le monde, ça on est tous d'accord avec toi, on envisage ce service commun à l'envers, entre guillemets. Pour l'instant, il serait chez nous et on le prêterait une partie du temps à la Comcom.
Et déjà, il y a des communes qui ont fait appel et qui font appel à nous. Par exemple, on a beaucoup dépanné, c'est l'an dernier, la commune d'Omessas. Enfin, ils font déjà appel
à Alzon.
N'oublions pas l'intervention hier de Roger Laurent concernant la commune d'Alzon, avec son pédo, qu'on a beaucoup dépanné cet été. Donc, il y a déjà quand même une solidarité, une mutualisation.
C'est la première fois qu'il n'y a plus d'eau dans la vie.
C'est déjà avant aussi.
Oui, c'est ce qu'on fait depuis longtemps.
C'est la solidarité.
Ça s'appelle la solidarité, ça. Mais donc, l'idée de création de cette entente, c'est ne plus être dans l'urgence, enfin essayer d'éviter d'être dans l'urgence, comme tu dis là, tirer un tuyau vite dans l'urgence pour dépanner le Vigan ou Avez ou je ne sais quoi, c'est vraiment anticiper les problématiques, Donc l'idée de cette entente, elle est là aussi.
Et en fait, justement, Sylvie parlait tout à l'heure de la communauté des communes, ils ont anticipé tout ça, ils ont fait ce transfert depuis janvier 2023, toute la communauté des communes en même temps, et en fait c'est extrêmement lourd à gérer. Donc bon, nous de toute façon personne n'avait envie de faire ça, mais commencer justement à 3, c'est vrai que c'est pas mal en fait. Puis au fur et à mesure, on s'agrégeait de communes.
Et puis si demain, je sais pas, où là ça veut venir.
Ça permet de voir ce qui fonctionne, s'y améliorer.
C'est bien, ce débat est intéressant.
C'est un débat.
Ce débat est très intéressant, oui.
On vient de travailler sur le PLUI, on parlait des zones commerciales. Du coup, il faut prendre en compte, je suis favorable à ce qui est des activités qui de l'autre.
Ça devient un vrai sujet. considération pour les années à venir. Là. Et on l'a vu, c'est, et ça a commencé cet été, voire très souvent. C'est bon, hein. Souvent, ou vous avez d'autres... On prend acte, donc je vous propose de prendre acte de ce débat d'orientation budgétaire sur le budget. Qui s'abstient, merci. Délibération suivante, débat d'orientation budgétaire 2024, village de vacances, La Pommeraye, Jules Chamou.
Bon, ben là, il n'y a pas grand-chose à en dire. L'année 2023, c'était aussi une bonne année. Elle n'est pas aussi exceptionnelle que l'année 2022, qui était vraiment une des plus belles années, enfin, la plus belle année depuis que le village de vacances est redevenu une régie par la collectivité. On n'a jamais fait une aussi bonne année en 2022. 2023, elle n'est pas aussi exceptionnelle. On n'a pas eu le même été du tout. On a eu des ailes de saison qui sont très favorables. Encore au mois d'octobre, il faisait super beau. On a eu encore un peu de monde. On a eu aussi un printemps très beau entre les week-ends de mai, le week-end de Pâques, où on l'a dit hier en communauté de communes, on a rajouté des navettes pour aller au grand site de Navacelles comme l'été, tellement il y avait de fréquentations annoncées. Les navettes, elles ont beaucoup servi là. Mais globalement, c'est une bonne année sur 2023 aussi. Et la prévision sur 2023 qui fera en 2024, pour savoir combien on aura de réservations. Mais pour l'instant, on a des... Voilà, on a des réservations, donc bon. De toute façon, de manière générale, il devrait aller de mieux en mieux sur celui-là. Sur les autres, je ne dis pas, mais sur celui-là, bon. S'il y a un point particulier. Alors, ou une question qui...
Les mois de mai, juin ont été excellents sur le village vacances, au mois de septembre, heureusement, juillet, mais comme l'ensemble national, on va dire, ce juillet a été plus... Les chiffres l'ont montré, mais bon, voilà, le village vacances, c'est... Sur de plutôt très bien.
Les atouts sur le terrain, c'est l'occasion, forcément, ils sont développés.
Mais oui, on a un bel environnement, les nuits sont peut-être un peu plus fraîches que bas, on a moins, il y a moins de tourisme de masse qu'au bord de la mer, donc voilà. On a une arrière-saison.
Manifestations.
Beaucoup de manifestations, oui, donc. Une ville, oui. Oui, il y a encore, je ne sais plus le nombre précis, mais je crois qu'il y en a trois, oui. Trois gîtes, c'est ça, hein, voilà. Oui, d'autres... Donc on prend acte de ce budget, débat d'orientation budgétaire du village vacances La Pommeraye. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Septième délibération, matériel réformé, sortie d'inventaire, donc Jules Chamou.
Rapidement, classiquement, à chaque fois qu'on a du matériel qui devient obsolète, il faut le sortir de l'inventaire, voilà, du reporting de la mairie. Donc on a des imprimantes au village vacances, on a un certain nombre d'outils au service technique, des meuleuses, des batteries, des imprimantes.
Voilà, donc il y en a qui ont la déchetterie ou recyclée, voilà. Question sur cette délibération? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Huitième délibération, conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement des intervenants extérieurs. Jules Chamou.
C'est quelque chose qu'on faisait déjà auparavant. Quand il y a un intervenant ou une intervenante extérieure à la collectivité qui ne travaille pas pour nous, le cas dernièrement par exemple de professeurs de la fac de médecine de Montpellier qui montent pour des conférences ou des choses comme ça, qui ne demandent pas à être payés, donc on ne fait pas de contrat de travail ou de contrat de vacation, donc il n'y a pas de support juridique, mais ils nous disent est-ce que vous pouvez rembourser quand même nos frais de déplacement, c'est quelque chose d'assez normal. Jusque-là, on le mettait sur le régime des frais de déplacement et on mettait le document de indemnisation avec le nombre de kilomètres, etc. Là, le trésor public de Quissac, veut aussi une délibération cadre. Donc, on vous propose cette délibération cadre qui reprend les montants du décret d'indemnisation classique, s'étant du kilomètre, s'étant la nuit, s'étant le repas, etc., etc. On a pris les montants du décret, on ne met pas plus, pas moins. Voilà, c'est, vous voyez, quand vous avez une petite voiture, si vous faites moins de 2000 km, c'est à 9 du kilomètre, bon voilà, rien de... On le faisait déjà, mais sans cette délibération, et la nouvelle trésorerie nous demande la délibération cadre, alors qu'il existe déjà un décret. Donc, bon, il faut délibérer sur le décret. Bon, délibération, plus le décret. Ça vous... Et voilà, ça doit venir de ça.
Des questions?
Les tarifs qui sont pratiqués, c'est la fonction
Oui.
Comment?
Oui, tout à fait. Bien sûr, ça n'a rien de...
Ah, c'est pour tout le monde. Ah oui, c'est fonction publique, même privée.
Ça n'a rien de rare.
Les entreprises, c'est...
Ça n'a rien de rare, c'est le décret.
Mais c'est aussi les barèmes qu'on utilisait jusque-là. Juste, on n'avait pas la délib.
C'est le cas où tu changes, c'est tout.
Ça ne va rien changer, voilà. Je propose de rien changer, qui est contre, qui s'abstient.
Alors, qui est... S'il y a des questions, peut-être Lionel, tu as des questions? Lionel Giron-Père, tu as des questions par rapport à ça?
Je disais que c'était dû à la trésorerie Kizan, où effectivement il y avait beaucoup de...
Qui est un peu compliqué.
Moi, je les connais par ailleurs, c'est sérieux.
Oui, oui, c'est voilà. Sérieux. Oui.
Ça en fait partie.
Ouais, c'est...
Je crois qu'ils sont sous le podium par rapport à...
Oui, ils sont pas...
Ah ouais,
ils ont la palme d'or, là.
Ah, ils ont la palme d'or.
On est d'accord. Ceci dit, donc, on va passer au vote, peut-être. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Neuvième délibération, concession de la salle de cinéma de la ville du Bigan, donc le Palace, choix du délégataire et approbation du contrat. Donc, il s'agit... ce soir, de se prononcer donc sur le choix du délégataire et sur le contrat donc qui lui est proposé. Donc, il a été choisi. Donc, il y a eu une commission où les candidats ont été auditionnés. Il y avait deux candidats. Je crois que la première, j'avais assisté Magali à une première réunion
sur. Sur la première réunion, je pense à ça.
Voilà. Donc le choix s'est posé sur Cinéode, donc l'actuel délégataire, qui nous fait voilà, un très beau travail et qui ouvre ce cinéma d'une façon quand même remarquable, je dirais. Donc, pas grand-chose à rajouter. Denis, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou...
Juste dire qu'à ce jour, le cinéma a fait 20 000 entrées. À l'an dernier déjà.
Oui.
Voilà, et à la fin de l'année, il sera avec tous les jeux. Je trouve que
c'est vrai que pour lui, il disait que c'était une bonne salle.
Ouais.
Oui.
En proportion de la taille et de la fréquentation.
Mais c'est pour ça, oui, que
c'est
en fait.
Pour ça qu'on les a gardés.
On les a gardés, quoi.
Et en plus, ils sont moins chers.
Un, ils sont moins chers que celui que le deuxième qu'on a auditionné. Et puis, ils sont très dynamiques, ils travaillent avec des associations, ils travaillent vraiment, ils font des propositions. Cet été, on a eu voilà, des séances à l'extérieur, les séances de rugby. Là, ils vont nous proposer prochainement, donc il y a le 36 qui est des Cévennes, donc dans le cadre du Festival Cola. Et il va y avoir aussi une retransmission, c'est ça?
Le 19 décembre, je voulais le dire.
Voilà.
Une retransmission de l'Opéra de Paris de Casse-Noisette, en direct.
En direct, voilà.
Donc, venez nombreux, peut-être qu'il y aura pas de place.
Voilà.
Non, mais c'est super.
Non,
super
c'est
d'avoir de l'Opéra du Théâtre en direct à travers la salle de cinéma.
Donc, il s'agit ce soir. Donc, si vous avez d'autres. Pardon, je n'ai pas.
Juste rappeler
Jean-Baptiste,
c'est
oui.
Tellement une bonne salle qu'on avait demandé une enquête de faisabilité d'ouverture d'une seconde salle
oui.
Dans ces lieux. Ça avait été plutôt favorable, en termes en tout cas de marché. Quoi, entre guillemets.
Donc, de marché.
On ne peut pas. On est obligé de prendre deux travaux exigés, oui. Des travaux tels que le total. Enfin, voilà, l'affaire est saine.
Alors je précise qu'ils ont une subvention de 20 000 euros, donc de la collective 24 000 euros, de rien non plus, ouais. Mais voilà, pour le maintien d'un cinéma au Bigan, c'est indispensable. Donc beaucoup de chance, oui. Il s'agit pour nous ce soir de...
Pardon. C'est une bonne dépense.
Il s'agit ce soir donc d'approuver le choix du délégataire, et donc la Cinéode, et d'approuver du contrat, donc qui est contre? Merci. Alors, délibération numéro 10, demande de subvention pour la réalisation d'équipements sportifs de proximité. Alors, nous avions voté même à l'unanimité le 30 septembre 2022, Ah, c'est ça, c'est... 2022. Oui. Sur la réalisation des équipements sportifs, donc sur le City Park et intégrant donc plein de basket et de volley. Et puis la création d'un pump track. Voilà, donc il y avait des demandes de subventions et des subventions qui ont été acquises. Là, on sollicite de la DESIL pour avoir une subvention supplémentaire, donc d'un montant de 60 000 euros. Les marchés, je précise que les marchés sont lancés et que l'audition des candidats aura lieu le 11 décembre. Voilà, très belle opération pour les jeunes hein,
qui
l'attendent avec grande impatience, ça, Lima.
Ah oui, chaque fois ils me le disent. Et...
Voilà, donc ça va être.
Les voir régulièrement.
Ça,
c'est
ah, c'est pas nous.
Ça, c'est pas nous, Stan.
Mais voilà.
C'est pas parce que c'est pas nous.
Mais aussi,
c'est pas là. Moi, je suis en pleine avec eux. Hein.
C'est ça.
Je travaille avec eux aussi.
Le bureau d'études a été choisi.
Oui, le bureau d'études a été choisi. Oui.
Tu vois.
Donc on y travaille aussi de l'autre côté. Voilà, donc, des questions particulières sur cette nouvelle demande de subvention. Là, on va passer au vote. Merci. Délibération numéro 11, demande de subvention pour le festival autour de la journée de lutte pour le droit des femmes et l'égalité des genres. Elsa Lévent.
Donc depuis 2 ans, la mairie organise les journées, le départ pour une séance plénière, de renouveler l'opération.
Voilà, reste à charge pour la mairie 5 850 euros pour l'instant, mais après, si ça peut. Festival qui effectivement a eu du succès, donc avec un participant. Alors on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Si. Délibération numéro 13, convention d'adhésion au service de prévention.
Numéro 12.
Ah pardon, numéro 12, ben voilà, mais tu l'avais. Tu me l'avais prise.
Pas du tout.
Je suis dupe. Oh là là, délibération numéro 12, dérogation du maire au repos dominical pour les commerces de détail en 2024. Sylvie Pavista.
Enfin voilà, quand même, il en faut un peu pour tout le monde.
Allez.
Des délibérations. Alors cette délibération-là, donc c'est pour le repos hebdomadaire qui a lieu normalement le dimanche. Ce repos peut être supprimé en concertation avec les commerçants, avec l'avis de Madame le maire et du conseil municipal. Donc les commerces sont sollicités pour avoir leur avis sur un nombre de dates. Nous-mêmes, nous en prévoyons la foire de la pomme et de l'oignon, différentes foires, les moments des festivals. Et on a reçu aussi un courrier cette année nous demandant, c'est les entreprises de la mobilité, nous demandant des dérogations pour un certain nombre de dimanches. Ça correspond en fait aux entreprises de distributeur, donc tout ce qui est des portes ouvertes pour leur entreprise. On a rajouté à cette liste la date du 14 janvier, qui n'était pas habituellement mars, le 16 juin, le 1 septembre et le 6 octobre, qui représentent les demandes de cette entreprise, des dates somme habituelles. Et on doit limiter ces dérogations à 12 jours pour l'année. Oui, parce qu'en en fait, il y avait une erreur avec le courrier. Enfin, elle n'avait pas pu remplir la bonne grille, une autre fiche. Donc je vais vous les indiquer alors. C'est pas le bon tableau.
T'as pas le... Oui.
C'était, je ne sais plus ce qui avait été envoyé.
Voilà, oui.
C'était l'ancien, voilà.
Ça, voilà. C'est celui qui vous avait été envoyé.
Donc le 14 janvier, 17 mars, 7 juin, 14 juillet, 11 août, 15 septembre, 6 octobre, 13 octobre, 20 octobre, 15, 22 et 29 décembre. Voilà. Après, effectivement, seuls les salariés volontaires qui ont donné leur accord peuvent travailler, donc s'ils le souhaitent, le dimanche. Ou également aussi, si les salariés sont privés de leur repos dominical, ils ont forcément un repos compensateur d'une durée équivalente. À la même période, avec des petites dates qui changent, évidemment.
S'il n'y a pas de questions, on va mettre au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 13, convention d'adhésion au service de prévention des risques professionnels. Alors, le centre de gestion du Gard a mis en place donc une nouvelle convention qui propose un service de prévention des risques professionnels auprès des collectivités. Donc leur mission, entre autres, hein, de nature à améliorer l'hygiène, la sécurité au travail, la prévention des risques, etc. Donc nous avons donc il s'agit pour nous de signer une convention donc avec le centre de gestion pour pouvoir bénéficier de ces services-là. Là donc c'est cotisation annuelle de 800 euros, cotisation qui est fixée selon la tranche à laquelle appartient l'effectif de la collectivité. Si vous avez des questions par rapport à ça, questions particulières, non? Alors on va passer au vote. Contre, qui s'abstient? Merci. Je suis brouillon. Alors, délibération numéro 14, mise à jour du tableau des effectifs. Donc là, c'est simplement donc création et suppression de grades pour emploi pour avancement de grade. Voilà. Donc c'est pas de.
Pas de création.
Il n'y a pas de création, c'est juste donc jeu de.
De chaise musicale. La personne qui change de grade et voilà. Arrive dans un nouveau.
Dans un nouveau grade, voilà. C'est simplement purement création, suppression, donc dans le cadre des avancements de grade. Vous avez des questions par rapport au... Pas du tout. C'est au niveau des ATSEM, là. Ça concerne les ATSEM. Parce qu'il y a deux personnes qui sont parties à la retraite, donc elles ont été remplacées par deux personnes qui n'avaient pas ces grades qui sont passées. Donc, tu vois, il s'agit de supprimer les emplois d'ATSEM deuxième classe et adjoint technique pour créer des emplois permanents d'ATSEM principale, première...
Mais en fait, je crois que pour l'ingénieur, c'est la délib d'après.
Ingénieur, c'est la délib d'après, voilà. Oui. Ça, c'est pour les ATSEM uniquement. Voilà. Loin, si tu dois préciser des... Voilà, mais bon, c'est... Des questions d'autres... Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 15, donc on y vient, création d'un emploi permanent au service de l'eau. Donc, comme on l'a précisé tout à l'heure, vous le savez tous, en 2023, en avril 2023, nous avons créé, donc avec Avez et Molière Cavaillac, l'entente de l'eau. Il se trouve aujourd'hui qu'il nous faut renforcer cette entente. Hein, donc voilà, on a le souhait de renforcer cette entente pour justement préparer le transfert en 2026. Et nous avons besoin d'ingénierie, on va dire, dans un premier temps, donc pour le réseau de la ville du Vigan, qui va permettre donc d'actualiser notre schéma directeur d'eau potable. Et je vous le disais, donc dans un deuxième temps, pour conduire le transfert obligatoire de cette compétence d'assainissement à la CCPV. Voilà, donc je vous propose de créer un emploi permanent d'ingénieur pour ce service de l'eau, un agent qui relèvera de la catégorie A, la filière technique. Et il ne paye pas. De toute façon, voilà, c'est pour l'instant un poste qui est.
Je
vais demander
à Martine.
Est
au courant. Si.
Normalement.
Ah ben si.
C'est un poste du Vigan.
Oui, c'est un poste Vigan, en tout cas, qui sera transféré en 2026. Donc, c'est un poste pris en charge par la collectivité, par la mairie du Vigan. Donc, normalement, Et justement, voilà, donc c'est peut-être que...
La réunion, elle a eu lieu en septembre. Martine était présente. Donc
et oui.
Elle était informée. Il y avait Joël Corbin.
Je vais te dire comment ça s'est passé.
Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, moi j'étais présente à cette réunion, Joël, on était présente tous
fin septembre.
À l'entente de l'eau, et donc on a parlé de ce poste-là, oui. Tout à fait.
Après, eux, ils ne vont pas le financer.
Mais c'est vrai
pour l'instant.
C'est peut-être pour ça qu'elle a pu l'enlever de sa tête.
Mais il y avait Pauline également, vous pouvez demander à Pauline si vous le souhaitez, mais lors de cette réunion, on était tous autour de la table, donc Jérôme était présent, Jérôme président de l'entente de l'eau du reste, et effectivement on a parlé de ce poste-là, de l'éventualité de ce poste-là, voilà.
Non, on en a parlé plusieurs fois.
Et on en a parlé plusieurs fois.
On en a parlé plusieurs fois.
Et en fait, Pauline, qui est très compétente, donc vraiment, et c'est extraordinaire de pouvoir travailler avec elle, Donc elle nous a exprimé quand même, en tout cas, le souhait qu'un poste d'ingénierie serait souhaitable donc, pour l'accompagner et pour l'épauler. Voilà, donc, et pour travailler sur, justement, travailler sur le schéma directeur. Voilà.
Et c'est toujours pareil. C'est, on veut travailler à 21 communes, quelqu'un pour aller travailler un petit peu. Et on est peu ambitieux pour le Vigan, comme ça et tout, mais encore que quand on regarde le schéma directeur, quand on regarde, mine de rien, on a 4 agents à venir. Donc, ils ont plus aussi de technicité. On a des appareils qui sont de plus en plus compliqués. En plus, appel à des prestations externes parce que du coup, c'est de l'électronique.
On va y gagner, en tout cas. Mmh. On ne peut qu'y gagner.
On optimise. Là, déjà, Pauline, elle a optimisé les tournées.
Aujourd'hui,
avant dans nos services, il n'y avait personne qui était disposé à le faire. Elle optimise les tournées. Alors, elle optimise les tournées.
Les agents, ils en passent ce qu'ils veulent, hein, en tout cas. Ils le savent. Je sais que Joël en a parlé. Les agents sont au courant et mis en place de ce qu'ils veulent. En tout cas, cet agent, cet ingénieur ou ingénieur sera remonté en puissance sur ce service de l'eau. Et je pense que, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vu les problématiques qui s'ouvrent à nous, en tout cas sur l'eau, je pense que monter en puissance sur ce service, c'est indispensable.
Il travaille sur le Vigan pour l'instant,
alors ? Il sera rémunéré par le Vigan pour l'instant.
C'est là où ce que
tu oui, tout à fait. Exactement. Exactement.
Est-ce qu'il va travailler sur les...
S'il y a une demande et s'il y a un besoin, oui. Avec une facturation, après. Voilà. Avec une facturation selon le temps qui passe, selon la mission qui lui est demandée.
Et en gros, il ne va pas aller à ce...
Et du coup
Du coup, il y
aura
une économie
énorme. Tout à fait.
Il y a une économie.
Des années. Oui. Et quand tu perds moins de temps,
c'est de garder une régie publique.
Enfin, c'est oui. Ça, c'est. Alors, ça, c'est.
D'avoir hyper... un ingénieur, ça te permet. Ou une ingénieure, ça te permet de garder la régie publique.
Quand il y a des interventions, l'importance
d'avoir utilisé
des
balles mécaniques. Ah, si. Mais bien sûr que
ça dépend de la nature des travaux. Nous, par exemple, on fait une campagne de changement de compteur. On change des compteurs, mais on change les conduites aussi qui sont en cours. Il en reste encore quelques-unes. On a fait un marché. Ration à Molière, justement. Là, on le fait aujourd'hui. On a la capacité de les faire a priori en régie. Avant, on faisait appel à une entreprise privée. Molière.
On a déjà pris.
Voilà. Mais j'avais pas dit.
On a déjà pris.
Non.
Mais oui, on l'a déjà pris.
Après, il n'y a pas que des agents de chez nous.
Mais maintenant.
Non. Là, de plus en plus. Là, Molière, il y a encore l'année dernière, ils auraient appelé Serra ou.
Saoudi.
Là, ils ont pu le faire 100% en régie.
Très grosse.
Nous, on peut en faire de plus en plus parce que du coup, avant, on se retrouvait avec un seul agent parce qu'il y a les congés, les machins, les trucs et tout ça. Là, aujourd'hui, en étant plusieurs, eh bien, on a forcément toujours 2, voire 3 agents en permanence. Du coup, on peut faire plus de réparations. On se garde la possibilité de faire appel à une prestation extérieure. Voilà. Mais l'idée, c'est d'en faire le maximum en
réseau. On a 6 maintenant, 6 agents. En comptant le Vigan à Vaise-Moulière.
La communauté
sur
de communes, la compétence de la communauté.
Pas sur l'entente.
C'est sûr, pas sur l'entente.
Voilà.
En fait, là, il va travailler sur le schéma directeur. Après, il va travailler avec nos équipes. Donc là, c'est considéré comme l'apport du Vigan, tout comme la mini-pel, tout comme.
En entente, c'est normal. Magali. On va le garder en régie. Ouais. Enfin, le souhait, mais vraiment le souhait le plus, c'est de le garder en régie.
Donc ça peut être une compétence de la commune, mais on peut le garder.
Ce sera une régie intercommunale.
Quand on dit régie, c'est-à-dire que ça reste
un service public.
Qui est géré par l'administration publique.
Mais ça sera forcément géré par
là, à l'heure actuelle, c'est une régie communale. Et après, ce serait une régie intercommunale.
C'est de s'organiser et pas d'arriver en 2026. Bon, il faut faire quoi? On ne sait pas faire. Au 1er janvier, il faut qu'il y ait de l'eau dans les tuyaux. Donc on prend.
Et il faut se dire qu'en 26, il y a
privé pour le faire.
En 26, il y a l'assainissement aussi. Il y a l'eau potable, mais il y a l'assainissement.
Et à Nîmes, ils ont eu le cas, ils s'en souviennent.
Alex et Maxime, vous avez peut-être des observations supplémentaires à nous donner. Merci. Donc on va passer au vote. Qui est contre ? 6. C'est toi là. Voilà.
Et place de la commune du Vigan du Pont de la Croix. Aussi un quartier rituel dans notre conseil de nommer des rues de notre commune pour donc faciliter la fourniture des services publics, les secours, les connexions au réseau, etc. etc. Il est nécessaire donc de nommer toutes nos voies. Donc en règle générale, elles sont nommées. À mesure, on découvre quelques petites anomalies. Donc là, on voit le tracé jaune. C'est cette voie que l'on souhaiterait nommer hameau du pont de la Croix parce que ça amène justement à des hameaux qui sont considérés comme le hameau du pont de la Croix. En fait, il n'y avait aucun nom de rue pour arriver à ces habitations parce qu'en fait, il y a quelques années, c'était simplement des usines. Maintenant, il y a 15 à 20 personnes qui y habitent. Ça a été transformé en logement. Et quand le 10 vient ou aussi la poste ou la fibre ou je ne sais quoi, leurs habitations sont difficiles à trouver. Donc là, je ne sais pas si vous situez, c'est à la sortie donc, du rang. Il y a cette petite contre-allée qui est là.
C'est un petit dessin.
Oui. Voilà, qui est nommée là, on voit route du pont de.
Le pont de la Croix.
Il est là.
Oui,
maintenant, mais. C'est là, on voit la Vésole ou le Viganel. Ouais. C'est ça.
Pourtant, mon pied doit savoir.
Quand même.
Donc, on n'était pas nommé, c'est
comme avant, voilà, c'est ça. Donc, quand on est à la sortie du Vigan, on a une petite route en contrebas qui est nommée, là, j'arrive plus à le lire, route. Enfin, c'est une route départementale, elle va garder son nom. C'est la petite portion jaune qui va être nommée, si vous le voulez bien. Hameau du pont de la Croix. Pour ça, les riverains ont été contactés, ils ont reçu un courrier, je les ai reçus aussi, j'ai été sur place, tout le monde est d'accord, et ils en sont très heureux d'ailleurs. Et ensuite, évidemment, à l'issue de ça, il y aura une numérotation, mais là, on n'a plus besoin de délibération pour ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.
Maintenant que vous vous êtes repérés, est-ce que vous avez des questions ? C'est bon ? Alors on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Magali, tu as peut-être quelque chose à rajouter ?
Non, expliquer à Olivier.
D'accord.
Il est perdu aussi.
Olivier !
Oh là 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 !
Ici.
Olivier, tu cours pas ? Tu fais pas des
tu passes
pas par là ?
Tu fais du vélo,
et tu passes pas par là ? Et tu passes pas par là ?
Jamais.
Bon, reprends ton vélo et fais un petit peu
de tirer par ce quartier. Vous allez le découvrir.
Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Ensuite, on a la 17e délibération, déclassement d'un tronçon de chemin rural de l'Ove. Donc là, on avait déjà eu une délibération à ce sujet, où on n'avait pas pu le déclasser, puisqu'il y a un commissaire enquêteur qui avait suivi tout ça, et les riverains n'étaient pas tout à fait d'accord. Donc, les riverains se sont entendus pour les différentes servitudes. Donc, il y a une servitude de passage à dos de bête qui est maintenue et retranscrite dans l'acte notarié authentique, qui sera fait bientôt. Une nouvelle servitude a été convenue entre les riverains concernant la collecte et l'écoulement des eaux pluviales. Et voilà, donc tout ce petit monde s'est entendu, M. Bonnet, le Bouc, Mathurin, et un acte sous sein privé sera signé le 1er novembre. Donc il n'y a plus d'obstacle à la cession projetée de ce petit bout de chemin rural.
Mais à dos de bête, c'est quoi ? On a spécifié les animaux.
Eh bien, tu montes sur la bête que tu veux. On n'a pas d'éléphant dans le secteur. Bon.
Voilà. Des questions ? Voilà, ça c'est vraiment. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 18, candidature de la commune du Vigan dans le parcours d'accompagnement d'une cohorte de territoires proposée par le réseau des territoires d'Occitanie pour la transition énergétique, Totten, et par la fabrique des transitions, Sylvie Pavlista.
Donc, la mairie du Vigan a fait acte de candidature donc, pour rentrer dans cette cohorte du réseau des territoires d'Occitanie pour la transition énergétique, autrement dit Totten. Comment on en est arrivé là ? En fait, le PVTR a été accompagné par la fabrique des transitions pour entrer dans une nouvelle façon de fonctionner avec des apports de connaissances, des temps d'inspiration, d'accompagnement de projets concrets, etc. Et de fil en aiguille, on est rentré aussi un peu plus proche, un peu plus près avec la région pour aller avec l'AREC, c'est-à-dire l'Agence régionale d'énergie climat, qui lance donc un réseau particulier, donc le fameux réseau Totten. Et nous avons souhaité, la mairie du Vigan, se raccrocher à ce réseau pour bénéficier d'apports de connaissances, comme je le disais, mais aussi de méthodologie par rapport à la rénovation de l'école et de voir la rénovation de l'école dans une démarche globale avec une ambition sociale, environnementale et aussi s'inscrire dans une réflexion large avec l'ensemble des utilisateurs, les artisans, évidemment les utilisateurs, pas d'utilisateurs, c'est les enfants, le personnel communal, les enseignants, les parents évidemment, et donc de travailler ensemble pour une belle école de demain et de voir l'école dans son ensemble, dans sa globalité, donc une approche systémique avec un traitement nouveau pour la cour, c'est-à-dire a priori une désimperméabilisation de la cour, une rénovation énergétique des bâtiments, une démarche aussi low-tech dans la rénovation du bâti. Et à ce titre-là, on a déjà avancé depuis 2022. On a fait une pré-étude de faisabilité avec le CAUE, une étude de faisabilité avec un cabinet d'études. Et puis en 2023 aussi, un projet d'étude a été mené avec un groupe d'étudiants pour l'intégration de démarches low-tech dans la rénovation du bâti. Donc on a avancé plusieurs pistes et maintenant on souhaite être épaulé par la fabrique des transitions, par l'AREC avec la région, pour avoir cette approche donc Elsa.
Oui, donc, bah,
c'est une approche globale, voilà.
Et puis ça peut effectivement nous venir bien.
Parce qu'en fait, pour avoir de belles subventions, ben, il faudra innover, être au point de la recherche, et néanmoins on souhaite innover, mais je crois que l'ensemble déjà des études qui ont été faites, des discours, des discussions qui ont été entamées avec les partenaires, c'était de ne pas faire une école high-tech qui soit très consommatrice par exemple en énergie, mais sobre, voilà. Donc c'est quand même aussi un défi ça, à l'heure actuelle. Et donc on sera accompagné par Totten dans cette démarche et avec la fabrique des transitions et également aussi par le PETR, puisque le PETR a déjà été accompagné dans un projet pilote qui est en cours de route, et nous, la rénovation de l'école serait aussi un projet pilote au sein de Totten. On est déjà très repéré par la région et la REC grâce au PETR Cossé-Cévennes et on a proposé notre candidature. On avait besoin évidemment que ça soit validé par le conseil municipal. Et en tous les cas, les premiers échanges qu'on a eus, le projet de patrimoine, entre autres une école, les intéressait, parce que l'idée aussi qu'il y a par derrière, c'est que d'être formés tous ensemble, c'est-à-dire les élus, les agents, les utilisateurs de l'école, l'État, d'être formés ensemble et...
faire un projet exemplaire.
Merci.
Je me suis perdue,
mais bon, voilà, merci. Donc, en on a déjà commencé à travailler ensemble parce que certains sont capables de finir mes phrases, ce qui est quand même un bon.
Une bonne preuve de cette coopération. Alors je rajouterai que la semaine dernière, j'ai rencontré le DAZEN, donc le directeur académique, qui est venu donc à la mairie du Vigan. Et quand on lui a présenté ce projet, il a été extrêmement, on va dire, extrêmement emballé. Et il souhaite participer aux différentes copies là, que nous allons faire sur cette belle réalisation. Et ouais, vraiment, il était très très enthousiaste sur ce projet. 4 millions d'euros, un projet de 4 millions d'euros. On espère pouvoir commencer
2025.
Voilà, deuxième semestre 2025. Ouais.
On espère que notre DGS bouche les oreilles derrière.
Voilà. On a déjà eu une étude de faisabilité qui nous a donné quand même le cadre financier. On a déjà une étude de faisabilité qui nous donne le cadre financier. On va demander le maximum de subventions, bien évidemment. Hein, si on a zéro subvention, eh bien, ça ne se verra pas. Par contre, si, avec, en tout cas dans ce projet-là, étant projet pilote retenu par la REC, la région, et même, hein, donc on espérait quand même avoir de bonnes subventions.
En fait, tout 2024 pour s'organiser.
Oui.
Et on espère démarrer en 2025. Et au niveau des budgets, en fait, 2024 c'est la grosse année pour le pôle d'enseignement supérieur, avec tout le financement qui va avec. C'est sûr qu'on ne peut pas aussi commencer le financement de l'école la même année. Donc raisonnablement, et comme on est déjà bien avancé, on a beaucoup de choses qui sont prêtes, raisonnablement on peut penser 2025.
Et vraiment le DAZEM a été très très clair, très enthousiaste, et il souhaite vraiment nous accompagner sur cette réalisation-là. C'est vraiment très très...
Ce qui m'a permis de retrouver mon idée,
ah,
quand même,
voilà.
C'est que en fait, l'idée aussi de ce projet-là, c'est de vraiment travailler en coopération et en coopération les uns avec les autres. Et donc, l'ingénierie du PETR sera là pour aussi nous aider dans cette démarche. Et nous aussi, à notre tour, quand on aura bien compris la méthodologie, etc., à notre tour d'aller aider aussi d'autres communes qui auront des écoles à rénover ou des projets à peu près similaires. L'idée, elle est là aussi. C'est de vraiment aborder ça sous l'esprit de la coopération au sens large. Et c'est pour ça aussi que ça a retenu l'attention de la REC. C'est que ça a été initié, cette démarche, avec le PETR. Maintenant, c'est une commune qui s'en empare. Et on espère, nous, à notre tour aussi, de pouvoir accrocher d'autres communes et d'autres élèves, pas Viganais. C'est l'idée.
Jérôme, oui.
Quand on dit...
Pas dit demi, début
on a pas dit début.
Non. J'ai dit quand on a dit le début en 2025, c'était pas, c'est pas, ça va pas être. Il y aura les études, il y aura les machins, il y aura les trucs, il y aura les vidéos.
Après, de toute façon, ce sera un projet. 2025, c'est qu'effectivement, il y aura plusieurs tranches de travaux.
Parce que dans le projet,
sur pas mal d'années.
On parle de l'école au singulier, mais en fait, c'est le groupe scolaire en entier,
oui.
L'école élémentaire,
la
maternelle.
Et la cantine.
Alors évidemment, la structure de l'école maternelle, c'est pas du tout les mêmes problématiques que l'école élémentaire, mais ceci dit, on a ces trois bâtiments, plus la cour, qui est aussi un sacré
budget,
et la chaufferie qui va avec aussi.
15 jours.
Et bon, c'est un beau projet, très enthousiasmant.
Au moins, oui.
Exactement. Exactement.
Bravo.
Vous retiendrez ceux qui ont lu le...
Bravo.
On n'avait pas de doute. On n'avait pas de doute.
Non, mais c'est un très beau projet.
En fait, c'est rigolo l'histoire des quatre fantastiques. Mais quand on arrive à travailler comme ça, avec l'État, les agents, les sociopros, les utilisateurs, et puis les élus, en fait, moi je peux en parler avec le PETR, puisque de plus en plus on travaille comme ça. En fait, c'est très très riche. On arrive à avoir des consensus que quand on laisse des personnes de côté, ne serait-ce que l'État, nous avec le PETR par exemple, dans notre groupe de quatre fantastiques, c'est l'État, c'est-à-dire l'ONF et le parc. On aurait pu choisir de travailler avec la DDTN, mais on a préféré le parc et l'ONF, c'était plus correct. cohérent avec nos projets, bah, quand on travaille avec ces différents acteurs-là,
ça avance plus vite.
Avance vite, on arrive à être en confiance. On n'est pas toujours d'accord, évidemment, mais j'en trouve des consensus et riche au processus de coopération. Donc ça s'apprend. Et justement, avec la REC et Totem, on aura des moments de formation. Alors là aussi, ben, tout le monde ne pourra pas y participer parce que c'est souvent en journée. C'est... Voilà. Mais chacun apprend un petit peu et on apprend comme ça.
Voilà. Très beau projet. On va passer au vote. Qui est contre ? Abstient. Merci beaucoup. C'est Sylvie pour ses explications très claires.
Non, 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 ça va. Si, ça va. Mais...
Donc on va...
C'est le diesel.
L'ordre... Oui, 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 vous avez... Ah, vous avez écouté, donc...
Le fameux podcast.
Les suivants arrivent.
Mais c'est vrai que France Culture est venue 5 jours sur le territoire pour différentes interviews, et c'est plutôt positif quand on est interviewé pour des choses positives que pour des choses négatives dont on a fait l'objet dernièrement.
Et je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi je me suis posé la question, comme effectivement interviewé beaucoup de personnes... En ce qui me concerne, elle m'a interviewée pendant 3 quarts d'heure. Évidemment qu'il n'y a pas que du bon dans 3 quarts d'heure. Et elle m'avait dit, on va en retirer pas grand-chose. Et pour tout le monde, c'était un petit peu pareil. Pour Jérôme, pour Elsa, pour Gaëtan, Rayan, etc. Et le montage qu'elle a fait, la succession des personnes interviewées, je trouve que ça donne bien à voir, en tous les cas, le fonctionnement du PET. Et il y a aussi au sein des transitions sur notre territoire. Partager sans modération.
Encore. J'ai entendu pas.
Donc on a fini l'ordre du jour du conseil municipal. Donc là j'ai quelques décisions municipales donc en date du 30 novembre. Donc une décision sur un tarif spectacle jure, une décision sur donc un avenant. Numéro 2, un marché de travaux publics pour la création pour le d'enseignement supérieur, lot 10, c'est l'ascenseur. Une session de spectacle contre Cévenol, un bail pour le gîte 3 Pérobe et une prolongation de bail aussi pour le gîte 1 à Pérobe. Dans les remerciements, alors j'ai 3. Donc ça concerne le service de l'eau justement. À l'attention de M. Sauveplane, président de l'entente de l'eau, M. le Président, je tiens à remercier l'ensemble du personnel qui est intervenu pour réparer la fuite importante sur notre commune, ESAT, au niveau de l'ESAT, la Tessonne, intervention qui s'est déroulée dans des conditions difficiles durant la nuit jusqu'à 23 heures. Donc ça, c'est signé Roland Canaillet. Et aussi, donc c'est Madame le maire, je tiens à vous remercier d'être passé lors de l'intervention difficile ayant eu lieu sur ma commune ce jeudi 23 novembre dans le cadre de notre entente sur l'eau, donc bien cordialement, Roland Canaillet. Et ensuite, donc, hey, Sylvie, suite à notre mariage avec Célia, nous tenions à te remercier ainsi que les agents du service qui nous ont permis de célébrer notre union aussi rapidement que nous le souhaitions. Nous voulions aussi te remercier plus particulièrement pour avoir permis à Alex d'être à la tête de cette cérémonie, car cela nous tenait à cœur. D'autant plus qu'Alex a vraiment mené cette cérémonie comme nous l'espérions, avec solennité et émotion. Nous ne l'en remercierons jamais assez. Encore une fois, avec tous nos remerciements à toi, les services et Alex. Donc, enfin, toutes mes amitiés à l'ensemble du Conseil, et plus particulièrement à mes colistiers, signés donc Damien. Voilà. À ce jour, je n'ai pas de questions diverses. J'ai quelques informations, donc s'il y a des informations à faire passer, peut-être Jean-Baptiste, tu voulais faire une information sur le musée Cévenol.
Je voulais beaucoup parler de la fonte de dotation en eau. Je pense que la mairie, les amis du musée, ne peuvent pas venir. Moi, ce fonds de dotation, ça y est, on a trouvé des fonds pour pouvoir le créer et ça m'occupe à ce moment avec. Mes petits camarades à faire des démarches sur internet, c'est pas le plus facile. Quand on appelle la préfecture du Gard, personne ne sait ce que c'est qu'un fonds de dotation. C'est assez hallucinant.
Les confitures de l'administration,
c'est terrible. Il y a des gens charmants au téléphone, ils font de leur mieux pour trouver un collègue qui sache, mais personne ne sait.
Mais... Bon, voilà, ça, ça fait partie des jouets de... On est en train de...
Merci.
C'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Oui, tu as bien raison, Jean-Baptiste. Ensuite, le samedi 2 à 10h30, il y a l'accueil des nouveaux arrivants à la mairie. Donc, soyez nombreux pour accueillir les nouveaux arrivants. Le 13 décembre, distribution des cadeaux de Noël donc à nos aînés au Cantou, donc de 9h à 17h. Là aussi, venez nombreux rencontrer nos administrés. C'est le 13 décembre et le 2 décembre accueille des nouveaux arrivants. Ce week-end, vous avez le festival du Polar. Il reste peut-être pas grand place, mais en tout cas, essayez
d'y aller. Les romans, c'est quand
on voit. Ok, oui, merci. Merci Magali, bonne soirée. Et notez bien dans vos agendas, donc prochain conseil municipal le 21 décembre à 18h. Jeudi 21 décembre à 18h. On compte sur votre présence.
Oui, venez habiller en plein endroit.
Oui. Voilà, on aura des chocolats. Vous aurez peut-être des chocolats si vous
êtes sage. Alors, on va peut-être
un vin chaud.
Oui, un vin chaud. Pourquoi pas un vin chaud?
Parce que je regarde, j'ai je me dis les chocolats, ça va bien.
Est-ce que quelqu'un d'autre a des informations à donner? Pas d'autres informations? Ok. Bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à Delphine qui est derrière vous d'avoir participé à ce conseil municipal. Donc Delphine est en stage à la mairie du Vigan pour devenir secrétaire donc de mairie. Et voilà, donc elle souhaitait participer à un conseil municipal. J'espère que tu t'es pas trop ennuyée. Et voilà. Merci beaucoup.